Après la consécration, il y a sur l'autel Jésus-Christ tout entier, en personne, sous les apparences du pain. Et tout entier, sous les apparences du vin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le précieux sang par apparence liquide, mais il y a aussi le corps. Il y a aussi le sang, le corps, l'âme et la divinité de Jésus. Et vous avez des personnes qui sont allergiques au pain, eh bien qui peuvent, il faut, en général, ils l'ont su, enfin ce sont des gens qui sont pratiquants, eh bien, ils communient au précieux sang. Et dans une école, il y avait comme ça un enfant qui était vraiment très très allergique au gluten, eh bien, il y avait un petit calice pour lui, qui était sur l'autel. Quand le prêtre consacrait au calice, il y avait le petit calice à côté, où du coup, les paroles de consécration, l'intention du prêtre, c'est tout ce qu'il y a sur le tissu béni. Tout ce qui est sur le tissu béni et qui est du pain deviendra le corps du Christ. Tout ce qui est sur le tissu béni et qui est du vin deviendra le sang du Christ. C'est ce qu'on appelle le corporal, d'ailleurs, ce tissu. Et donc, il donnait le petit calice à l'élève qui avait le privilège, à 12 ans, de boire du vin. Dans ses espèces. Mais le corps de notre Seigneur, le sang de notre Seigneur. Dans sa réalité substantielle. Pourquoi Jésus-Christ? Oui, mais le vin garde toutes ses propriétés. C'est le but, d'ailleurs. Si ça devenait du vrai sang, on ne pourrait pas le boire. Enfin, on pourrait, mais ça serait horrible. Si ça venait de la vraie chair, ça serait atroce. Mais quelle est l'intention de Dieu? Ben, nous nourrir de sa personne, de son être, de son amour. Et je vous avais déjà dit, l'année dernière plus particulièrement, que dans les religions païennes, dans les religions naturelles, vous avez cette idée de manger la victime sacrée pour en avoir la force. On mange son ennemi pour avoir sa force au combat. Ça, c'est l'anthropophagie. Mais sinon, vous aviez aussi des rituels où la victime offerte, pacifique, un mouton, était mangée en l'honneur des dieux. Alors vous allez me dire, certains vont dire, eh bien justement, ils ont copié sur les religions païennes. Non, c'est les religions naturelles. C'est-à-dire qu'Abraham, lui aussi, mangeait les victimes offertes à Dieu. Les païens font ce que les vrais adorateurs du vrai Dieu font aussi. Par exemple, ils prient, ils parlent à leur Dieu. Ils ont peur de leur Dieu. Voyez. Nous, on prie, on parle à notre Dieu, et on n'a pas assez peur de lui parfois. Oh mais Jésus, il est gentil, hein, c'est un bisounours. Oui, mais de temps en temps, voyez, ça va. Peut-être qu'il va y avoir la colère de l'agneau. Question 226. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué l'Eucharistie? Alors là, c'est très 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 beau. La dernière raison a été exprimé sans doute par les pères de l'Église, mais par saint Thomas d'Aquin dans les questions sur l'Eucharistie. Donc c'est de la haute théologie, si je peux vous assurer. Jésus-Christ a institué l'Eucharistie, 1. Pour continuer à s'offrir en sacrifice à Dieu son Père. Donc ici, voyez-vous, c'est continuer à s'offrir en sacrifice à Dieu son Père pour nos péchés. Et on participe à ce salut et on communie pour cela. Pour être la nourriture de nos âmes dans la communion. Donc il y a à la fois la permanence du sacrifice, mais aussi la nourriture. C'est-à-dire que ceux qui se sont confessés de fautes dont ils ont honte, ils se sont confessés. Ils se disent, je vais peut-être recommencer. Je déteste ma sœur qui a été injuste dans les parts d'héritage, je l'ai humiliée, je l'ai giflée lors d'un repas de famille, voilà, c'est le péché grave, hein, je suis désolé. Excusez-moi de ne pas prendre de péché, sexuel, sous la ceinture, c'est trop facile. Vous voyez, le péché de faiblesse par rapport à notre sexualité, c'est le grand péché, n'est-ce pas, qu'on reproche à toute religion et surtout à la religion catholique. Enfin, il y a d'autres péchés que celui-là, hein. Et donc, lorsque humblement on se confesse de nos faiblesses, eh bien, il ne faut pas avoir peur de communier. Notre Seigneur nous nourrit et nous renforce dans l'espérance. Et les jansénistes vont dire, ah, c'est absolument impossible, on est vraiment trop pécheurs, donc ils vont pas jusqu'à Luther en disant, on est péché, donc on peut rien faire, Dieu nous pardonne de loin, mais ils vont dire, bon, communier à un si grand, à la grande divinité, à Dieu Tout-Puissant, à l'agneau pur et sans tache, oh, allez. L'Église nous demande une fois par an à Pâques, c'est bien suffisant. Et puis on est passé dans l'excès inverse, on dit, puisque Jésus me renforce et me console et me nourrit, ben je vais communier à toutes les messes auxquelles je vais assister. Mais pas forcément. Si vous venez de vous disputer extrêmement violemment juste avant la messe, vous pouvez ne pas communier, même si cette colère, cette dispute est un péché véniel. Mais il est vrai qu'une communion fervente nous donne la grâce du pardon de nos péchés véniels. Donc là, vous êtes un père de famille, vous avez giflé l'aîné, vous avez, comment dire, hurlé sur votre femme, et vous avez fini par retrouver les clés dans votre poche. Où t'as mis les clés? Mais c'est pas moi! Non, et là, vous allez à la messe, et puis vous recueillez, vous dites pardon, vous demandez pardon à votre femme, vous donnez pardon à votre aîné, et vous allez communier. En demandant à Jésus le pardon, et pas forcément en allant vous confesser. Ah, il y a un prêtre qui confesse, donc voilà, j'ai giflé mon aîné parce que c'était lui qui avait pris les clés, j'en étais persuadé, hein, et j'ai hurlé sur ma femme. Bon, c'est un péché véniel délibéré, mais est-ce que c'est un péché mortel? Est-ce que vous avez la haine de votre fils? Voilà, je vais te tuer parce que t'as perdu les clés. Non, vous n'avez pas une intention. Voyez? Eh bien, il est vrai que le péché véniel est remis par un autre Père, récité pieusement, et alors particulièrement, bien sûr, par la communion. Et je vous disais la dernière fois sur le que, justement, mais. Pour autant, confesser ses péchés véniels directement dans la communion est bon. Dans la confession, pardon, est bon. Parce qu'il y a des grâces particulières d'avoir l'humilité de se confesser. Et la troisième raison de l'institution de l'Eucharistie, nous dit le catéchisme pour enfants, demeurez toujours avec nous. Pour demeurer toujours avec nous. Jésus-Christ a institué l'Eucharistie, un, pour continuer à s'offrir en sacrifice à Dieu son Père, pour être la nourriture de nos âmes dans la communion. Trois, pour demeurer toujours avec nous. Il est au milieu de ses frères et sœurs. Il est dans nos églises, il est là. Et pourquoi? Mais aussi pour être sur terre. Parce qu'actuellement, on ne sait pas où est Jésus. On ne sait pas où est Marie. Ils sont ressuscités, ils ont leur vrai corps. Où sont-ils? Ils sont en un seul endroit, avec leur corps physique. Mais avec leur corps physique substantiel, Jésus est présent partout. Je voudrais avoir une apparition de Jésus et qu'il me pose la main sur la tête en me bénissant. Eh bien, quand vous communiez, vous êtes en contact avec Jésus. C'est pour ça que petit à petit, avec le manque de ferveur, on a communié sur la bouche. Au lieu de recevoir l'hostie, comme au repas pascal, vous voyez, je crois que c'est Fra Angelico qui représente Saint Jean en train de communier à genoux et sur la langue. Non, les apôtres ont communié, se sont passés les hosties, le pain consacré, les hosties, notre Seigneur, mais ils l'ont pris comme le repas pascal, ils l'ont pris à la main. Mais si vous voulez, quand est passée l'époque des persécutions, ben la ferveur était moins grande et on a mis les gens à genoux et on les a fait communier sur la bouche. C'est Jésus que vous recevez, c'est Dieu que vous recevez. Et des personnes qui ont un très grand sens de la présence de Dieu pourront jamais communier dans la main. Je prends Dieu, Non, je préfère le recevoir et directement sur ma langue. Alors, comme ça va faire 50 ans qu'on communie dans la main, je peux vous assurer, bon, j'ai la faiblesse de, comment dire, de donner la communion dans la main. Des prêtres tradis me couperaient en morceaux. Mais si vous voulez, c'est, il y a beaucoup de piété. Et donc, cette communion, donc dans les premiers siècles, était dans la main, parce que c'était le repas pascal, mais je peux vous assurer qu'ils croyaient en la présence réelle et qu'ils communiaient au corps du Christ. Et donc, un père de l'Église qui est souvent cité nous dit: fais de ta main un trône pour le roi des rois, et s'il y a des parcelles sur ta main, considère-les comme des poussières d'or. Vous aviez un jour comme ça un sacristain qui a été profondément scandalisé. C'était les années 70 et certains ne croyaient plus en la présence réelle. C'était à Marseille. C'était à la fin de la messe. Il y avait le plateau pour s'il y a des parcelles qui tombent pendant qu'on donne la communion. Et là, il y avait deux trois parcelles toutes petites mais qui étaient sur le plateau. Le sacristain vient: vous n'avez pas pris les parcelles. Et là, le prêtre prend le plateau et il souffle dans la sacristie. Et dit: c'est du pain. Ou c'est insignifiant. Le sacristain a reposé le plateau et n'est plus jamais revenu dans cette église. Et encore heureux qu'il soit revenu dans une autre. Parce que là, vous voyez, lui, enfant, on lui avait dit ça. Et là, il comprend plus qu'un prêtre lui dise le contraire. Vous avez comme ça un scout, le prêtre, à la fin d'une messe scout, donne le ciboire et dit: ben maintenant c'est bon, la messe est terminée, il y a trop d'hosties, jette-les.
Bon.
Mais c'était pour désapprendre hein, la présence réelle. Hein. C'est des prêtres qui souvent ont défroqué. Hein. Oui.
J'ai appris une fois que dans le temps, dans les sacristies, il y avait des lave-peau spéciales qui rentraient dans la terre,
Oui,
qui
pour
n'entraient
mettre
pas.
l'eau bénie pendant la messe, ou si on avait utilisé cette eau pour des purifications, mais non, le prêtre boit toujours l'eau où il pourrait y avoir des parcelles.
Et ça n'entrait pas dans les égouts de la ville.
Voilà, l'eau bénite n'est jamais normalement jetée elle doit être jetée en terre et non pas dans les égouts de la ville. Eh bien, ce pauvre scout a pris le ciboire, il s'est mis derrière un arbre et il a consommé toutes les hosties. Voilà. Et donc, lorsqu'il y a un danger de profanation, d'ailleurs, vous pouvez communier à toutes les hosties. Il y a une très belle histoire sur la persécution communiste, qui continue d'ailleurs, hein, en Chine. Vous avez comment dire, des gardes rouges qui étaient arrivés dans une église catholique chinoise, qui avaient éventré le tabernacle, jeté les hosties par terre. Et vous avez une chinoise qui a communié tous les jours, parce qu'elle était nulle en catéchisme, et elle venait tous les jours parce qu'elle pensait qu'on pouvait communier une hostie qu'une fois par jour. Alors qu'en cas de profanation, on peut tout consommer. Donc notre Seigneur l'a protégée pendant des jours et des jours et des jours. Hein? Et elle venait tous les jours. Elle se mettait à genoux et elle communiait à une hostie sans même la prendre dans la main. Et donc, en cas de profanation, vous pouvez les prendre avec les mains. Eh bien, au dernier jour, c'est une belle histoire, je crois, mais elle est vraie. Au dernier jour, elle a communié la dernière hostie, un soldat est arrivé et l'a tuée. Donc, pas de profanation des hosties, notre Seigneur honoré et loué, et elle directement au ciel. Et bien, vous voyez, à la Révolution, quand les révolutionnaires arrivaient, hein, au nom de la liberté, n'est-ce pas, et tuaient les prêtres, et éventraient les tabernacles et tout ça. C'était des grandes fondations de la République. Hein. Et donc, eh bien, à un moment donné, dans un village, il n'y avait pas de prêtres. Et les soldats arrivaient. Ils étaient paniqués. Qui allait prendre le ciboire? Ils l'auraient pris à la fin. Mais ils ont pris un enfant, le plus innocent qui soit. Ils l'ont habillé tout en blanc. Et ils l'ont monté à l'autel, au tabernacle, prendre le ciboire, et c'est lui qui allait cacher le ciboire dans un tronc d'arbre, ensuite où ils mettaient des fagots, enfin des fagots non, mais ils mettaient de la terre et tout ça. Enfin, ils aménageaient un tabernacle dans le creux d'un bois, d'un arbre, vous voyez, ils essayaient de le cacher de la meilleure façon. Et c'était un petit enfant qui a pris le ciboire, et tout le village suivait le petit enfant. Oui. Question 227. Quels sont vos devoirs envers Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie? Mes devoirs envers Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie sont de l'adorer. Donc c'est le culte rendu à Dieu. Devant un morceau de pain, oui. Parce qu'il a voulu qu'on puisse le manger. Et donc, avec les éléments du pain, on peut le manger. De respecter le lieu où il se trouve. Et vous avez différentes coutumes. Vous voyez, vous passez devant une église et vous vous signez parce qu'il y a le Saint-Sacrement dans l'église. Ou alors, vous dites la prière, je crois qu'il y a une prière, c'est pas une prière de l'ange de Fatima qui a donné cette prière. Je vous adore dans tous les tabernacles du monde, hein, en réparation des péchés qui se font. Et de lui rendre visite dans les églises. Alors là, vous êtes coincé. Si vous pouvez vous libérer pour un mardi soir, je peux vous assurer que vous allez vous libérer pour les 40 heures. Donc il y aura une adoration eucharistique pour l'entrée en carême à Sainte-Eugène. Oui, il ne faut pas oublier. Voilà. Pour ma vie. En entrant à l'église, je ferai avec foi ma génuflexion devant le tabernacle, orné du conopé. C'est quoi le conopé? C'est ce qui, comment dire, entoure le ciboire ou le voile du tabernacle, on dit le conopé. Où sous les apparences de l'hostie, Jésus est présent. Je ferai souvent une visite au Saint-Sacrement. Alors la lumière rouge, c'est une coutume. Est très ancienne, c'est en fait l'huile qui brûlait devant le Saint des Saints. Mais en fait, c'est le tissu qui représente la tente du Saint des Saints. Le tissu devant la porte du tabernacle, c'est le, comment dire, le tissu de la tente du tabernacle des Hébreux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, prière. Je vous adore de toute mon âme, ô Dieu caché. Donc c'est chapitre 6 de Saint Jean. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Liturgie. Le jeudi après la fête de la Sainte Trinité, l'Église a placé la fête de notre Seigneur, présent dans l'Eucharistie. On lui donne habituellement le nom de fête Dieu. C'est la bienheureuse Julienne, au XIIIe siècle, dans les années 1200, qui va avoir une révélation du Christ. Elle voit une hostie avec une barre noire. Et elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, eh bien, c'est une fête qu'il n'y a pas pour ma présence dans l'hostie. C'est une fête liturgique qu'il me faut. Elle va voir l'évêque de Liège, elle lui dit, voilà. Et l'évêque de Liège va faire une procession du Saint-Sacrement au XIIIe siècle. Dans une monstrance. L'ostensoir, c'était plus petit, c'était ou plus en colonne, plutôt qu'en soleil, et il y avait une hostie dedans. Eh bien, cet évêque de Liège est devenu pape, et donc il a étendu la fête du Saint-Sacrement au monde entier. À cette occasion ont lieu de belles processions. Tous les ans, dans chaque paroisse, on célèbre l'adoration perpétuelle. Alors ensuite, vous avez des devoirs, donc je vous laisse. Les catéchumènes, il va falloir qu'on se voit début mars. Catéchumènes, je vais prendre ça et je vais vous poser des questions. Et vous serez noté. Et si vous n'avez pas 18 sur 20, vous n'êtes pas baptisé. Très bien. Page. Comment?
Un diamant?
Non, 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 non. Ça c'est réservé aux catéchumènes. Vous pouvez le faire en cachant les questions. Page 172. Le calice. Là, c'est un dessin d'enfant. Bon. Le calice, l'ostensoir. Qu'est-ce que c'est que le ciboire? C'est le vase en métal doré. C'est du cuivre, hein, en général. Ou de l'argent, si c'est plus ancien. Et c'est du cuivre. Ou du fer, même. Mais l'intérieur doit avoir une pellicule d'or. Et donc au minimum, même si vous donnez tout l'argent aux pauvres, vous devez avoir un calice avec une pellicule d'or. Je peux vous assurer que le métal doré, c'est pas très cher non plus. Hein. Une pellicule d'or à l'intérieur du calice, une pellicule d'or à l'intérieur de la... C'est un calice fermé en fait, le ciboire, mais on met les hosties, c'est pas très cher. Si vous le mettez en fer, c'est pas très cher. Sous la Révolution, on faisait des calices en étain, parce qu'on n'avait plus ni argent ni or. Le plateau de communion, pour les parcelles. La patène, c'est quoi la patène? C'était le plat où on posait le pain, dans le repas pascal. Et là, on pose l'hostie. Vous avez certains prêtres qui ne veulent plus mettre de patène, c'est bien dommage, puisque c'était dans le repas pascal. L'autel, le missel sur la droite, les canons d'autel, c'est pour la messe grégorienne, avec les prières pour aider le prêtre, pour des prières qui ne sont pas dites à partir du missel, mais qu'il devrait connaître par cœur, mais il peut les lire s'il perd un peu la mémoire ou autre. Croix, chandelier, trois nappes. Pourquoi trois nappes? En l'honneur de la Sainte Trinité, c'est très beau, mais aussi par coutume, pour que si, par malheur, le précieux sang est renversé, que ce soit absorbé par les trois tissus. Et plutôt que d'arriver jusqu'au marbre ou jusqu'au bois de l'autel. Mais il doit y avoir normalement une pierre d'autel, parce que c'est la pierre du sépulcre du Christ, avec des reliques d'un martyr, au moins un martyr, dans la pierre d'autel. Donc, quand vous avez des beaux autels en bois, au centre, il y a une pierre qui est enchâssée dans le bois et sur laquelle on célèbre la messe. La coutume de célébrer la messe sur les tombeaux des martyrs, dans les premiers siècles, s'est continuée. Et en Orient, on ne met pas de pierre d'autel. On met un tissu et à l'intérieur... Dans une doublure du tissu, on va mettre des reliques de saints dans le tissu. C'est ce qu'on appelle un corporal grec. Dans les autels latins, les reliques des saints et au moins un martyr sont dans la pierre, dans un petit trou, dans un petit qu'on appelle le caveau d'ailleurs. La crédence, c'est la petite table à côté de l'autel où on pose les choses. La sonnette, c'est pour vous avertir pour la consécration. Le plateau des burettes. Les burettes, c'est ce qui contient l'eau et le vin. Leçon 34. La messe. Pour bien comprendre ce qu'est la messe, réfléchissez sur ce qui suit. Qu'est-ce que la croix? Qui est sur la croix? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous savez que même dans la messe réformée de 69, on doit avoir un crucifix sur l'autel. On doit toujours célébrer avec un crucifix. Alors on le met en général à plat, ou on met une croix. Normalement, c'est un crucifix. C'est-à-dire le corps de Jésus sur la croix. Qui est sur la croix? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En quel état est Jésus? Comme une victime. Le sang coule de son corps par ses plaies. Que fait Jésus sur la croix? Vous rendez compte la rudesse de ces questions, hein, pour des enfants. Hein. Il s'offre à son père en lui disant « Vous êtes le souverain maître de toutes choses, je vous remercie de tout ce que... » C'est de l'autre côté. « Ce que vous faites pour les hommes. Pardonnez-leur leurs péchés, donnez-leur vos grâces. Sur la croix, Jésus était visible. » Sur la croix, le sacrifice était sanglant. Jésus a souffert. Il est mort. Il le remercie de ses bienfaits, il demande pardon pour les péchés, il réclame pour nous toutes les grâces. Sur l'autel, Jésus est invisible, sur l'autel, le sacrifice n'est pas sanglant, Jésus ressuscité ne peut plus souffrir, il ne peut plus mourir. Voyez. Donc voyez-vous, c'est mais c'est la même victime et la même prière de Jésus. Jésus n'est pas recrucifié à la messe. C'est le sacrifice du Vendredi Saint qui est présent. Voyez. Et ses fruits. Dans tout l'univers, à chaque heure du jour, la grande prière de la messe se recommence sans cesse. Le prêtre vient de dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Qui est sur l'autel? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En quel état? Comme une victime. Le précieux sang dans le calice, le corps du Christ dans l'hostie, représente la séparation du corps et du sang de Jésus, comme sur le calvaire. C'est appris aux enfants, ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Que fait Jésus sur l'autel? Il s'offre à son Père par les mains du prêtre, et là encore, il dit à son Père qu'il est le souverain maître. Question 228 alors. Qu'est-ce que la messe? La messe est le sacrifice dans lequel Jésus-Christ s'offre à Dieu son Père comme victime pour nous par le ministère des prêtres. Un sacrifice est l'offrande ou l'immolation d'une victime faite à Dieu pour reconnaître qu'il est le souverain maître de toutes choses. Autrefois, les hommes offraient à Dieu des animaux qu'ils immolaient. Jésus-Christ a institué le sacrifice de la messe pour rappeler et continuer tous les jours le sacrifice de la croix. Page 174, question 229. Pour rappeler, c'est que un rappel, et continuer le sacrifice. Le sacrifice de la messe continue le sacrifice de la croix, parce que sur l'autel comme sur la croix, c'est toujours le même prêtre et la même victime, Jésus-Christ réellement présent, s'offrant en expiation de nos péchés. Le sacrifice de la messe est offert à Dieu seul, parce que c'est un acte d'adoration. Le sacrifice de la messe est offert à Dieu pour l'adorer, le remercier, lui demander pardon et obtenir ses grâces. Vous reconnaissez les quatre intentions de la parole humaine. Vous reconnaissez la personne à qui vous parlez, vous le remerciez de ce qu'elle fait pour vous, vous lui demandez pardon de ce que vous lui avez fait, et vous lui demandez d'autres services. C'est ça la relation humaine. Vous remerciez vos parents, vous reconnaissez vos parents, vous les remerciez, vous leur demandez pardon, et vous leur demandez d'être toujours présent avec vous. Vous reconnaissez votre ami, vous le remerciez pour ce qu'il vous apporte, vous lui demandez pardon pour ce que vous lui avez fait de mal, et vous lui demandez de continuer son amitié. C'est ça la vie. Avec Dieu, on l'adore, on le remercie, on lui demande pardon, et on lui demande de continuer. Si le sacrifice de la messe ne peut être offert qu'à Dieu, on peut toutefois le lui offrir en l'honneur. C'est-à-dire de manière secondaire, pas en adoration. En l'honneur de la Sainte Vierge et des saints, pour remercier Dieu des grâces qu'il leur a accordées et pour obtenir leur intercession, pour leur demander de prier pour nous. Le prêtre offre le sacrifice de la messe pour les vivants et pour les morts, et en particulier aux intentions de ceux qui ont demandé la messe. Et vous pouvez, avant une messe, demander au prêtre une intention en plus. Mais ça sera une intention secondaire, il y a une intention principale pour laquelle des personnes même vont faire une offrande. Auparavant, c'était de la nourriture, on faisait vivre le prêtre. Depuis qu'il y a la monnaie, on donne de l'argent. Et si vous n'avez pas assez d'argent pour l'offrande qui est normalement la nourriture d'une journée, c'est ça l'offrande pour remercier le prêtre de prier pour nous à la messe. Eh bien, vous pouvez donner moins. Vous voyez, un pauvre allait donner, je ne sais pas, une pomme à un prêtre, et un riche donnait un poulet. Eh bien vous pouvez donner 5 euros, alors que maintenant c'est 17 euros, bientôt 18, 20, je ne sais pas où ça s'arrêtera, mais si vous voulez, c'est parce que c'est la subsistance du prêtre. Ça fait partie, en fait, l'argent que vous donnez comme offrande à l'occasion d'une messe et va dans l'argent de la paroisse, et le prêtre va avoir en France 1100 euros par mois pour qu'il soit indépendant, ni riche ni pauvre. Pourquoi pas pauvre, 1100 euros? Mais parce qu'il a le logement gratuit, l'eau et l'électricité gratuite. Donc si en plus il a 1100 euros, il n'est pas pauvre, mais il n'est pas non plus très riche. Et ça c'est en France. Hein. Aux États-Unis ça peut être 3000 à 4000 dollars par mois. Mais en règle générale, du coup, ils ont la coutume de payer leur secrétaire ou de faire des œuvres particulières. En Belgique, c'est de l'ordre de 2000 euros. En Allemagne, c'est de l'ordre de 2000, 3000 euros. En France, vous allez me dire, eh ben c'est bien, vous savez, on est vraiment pas malheureux. Hein. Et il y a des prêtres qui ont des fortunes familiales aussi.
Non, mais il y a des prêtres qui reçoivent vraiment rien.
Ah non, en règle générale, ils reçoivent 1000 euros. Mais bon, il y a des prêtres qui sont religieux, ils reçoivent rien, mais ils sont... Normalement, un prêtre diocésain doit acheter sa nourriture avec les 1100 euros. Ici, vous avez l'institution du panier du curé qui est très sympathique. Ça nous évite d'acheter notre nourriture. Et puis, vous avez des prêtres d'instituts... séculiers qui ont 450 euros voilà, ou 600 euros.
C'est à cela que je pensais.
Voilà, mais ils sont nourris. Les prêtres de la Trinité Saint-Pierre vont avoir 600 euros ou 500 euros, mais ils ne payent pas jamais leur nourriture. Oui. Donc ça, c'était au passage pour la messe. Oui. Le prêtre offre le sacrifice. La meilleure manière d'assister au saint sacrifice de la messe est de suivre les prières du prêtre avec les mêmes sentiments que nous aurions eus au pied de la croix. Alors là,